Saper Lipopets. Après 37 Grands Prix et près de 2 ans de disette, Charles Leclerc a retrouvé la victoire et a fait avaler la trompette à tous ceux qui le pensaient aux oubliettes, à tous ceux qui lui avaient collé l'étiquette du leader sans épaulettes. Plus que le résultat, c'est la manière qui impressionne, une remise en question, un changement d'approche qui lui a permis de voler la vedette à Hamilton qui, à domicile, a sans doute fait trop de boulettes. Et si ce coup de pied au derrière nous permettait de voir un nouveau Leclerc, une version 2.0 qui ferait mentir ses détracteurs et leur propre fixette. Car le cas Leclerc doit mettre en exergue une tendance bien trop présente dans la F1 des temps modernes, le pilotisme, un concept dérivé du foot et du clubisme où l'on aime et supporte plus un pilote que sa propre discipline, un phénomène qui amène à une certaine bipolarité, quitte à basculer dans le complot quand on se permet une critique à chaud. Ce sport mérite bien mieux que de le voir uniquement avec le parti pris d'un arbitre ouzbek. Alors baissez le volume et rendez-vous au premier débat. Valide ton paddock pass, on te pistonne dans le club des vrais passionnés de F1. Salut les amis, ravi de vous retrouver. Le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. On est réunis sur RMC Sport pour se régaler dans Paddock Pass. La 9e manche du championnat du monde de Formule 1 est d'ores et déjà derrière nous. Oui, mais on ne l'a pas encore débriefé. Alors rien n'est terminé et on va ouvrir le livre avec la crème de la crème du chroniqueur F1 dans ce pays. Et j'ai commencé par mon premier, l'ami des Piélos, l'ami Pierrot. Comment ça va?
Bah moi ça va. Juste Brice, pas t'applaudir sur tes belles intros. Donc voilà, je trouve qu'il joue pas le jeu d'équipe, un peu comme chez Ferrari en Autriche ou à Barcelone, je sais plus. Non, c'était en Autriche, c'est ça. Voilà, donc bon, écoute, tu es mon prédestinato, sache-le.
Merci beaucoup, mon Pierrot. Une déclaration d'amour, une déclaration de guerre au chroniqueur qui sera face à lui, qui a vécu une nuit bien compliquée parce que son cœur est à Oriverdé. Monsieur Brice Germain, comment ça va?
Bon, pas ouf. Hein.
C'est de pire en pire, semaine après semaine.
Non, mais déjà, je tiens à répondre à mon compère qui est de moins en moins mon pote.
Ouais.
Non, parce qu'en fait, lui, il est habitué à tout ce qui est placement de produit, à devoir jouer le jeu pour la vidéo. Moi, je suis intègre.
Wow.
Et du coup, bah.
Donc, tu détestes vraiment Manu, top.
Non, c'est juste que je touche moins de pognon du coup.
Ah, ouais, d'accord.
Hein. Je vends pas le speech du bar.
Ah, ouais, on est sur de la thune. Voilà. Ok, top.
Non, mais oui, c'était une soirée compliquée pour la CLS.
Exactement, la CLS dans le cœur bien sûr de Brice Germain, l'homme de Belo Horizonte, on peut le dire.
Oui, bah je au San Minero un peu.
tu vois, je te l'avais dit. Ouais. Les amis, on a une pensée comme d'habitude quand on commence une émission pour notre ami Hamza Rahmani. Vous le savez,
il n'est pas mort.
Avec nous encore cette semaine. Ouais, il n'est pas mort, il est en pleine forme.
Il va revenir.
On a des nouvelles, on sait qu'il regarde l'émission. On l'a envoyé en prêt pour la Coupe du Monde et on espère bien sûr qu'ils vont nous le ramener, hein, nous le rendre bien sûr à l'issue de cette Coupe du Monde.
Bah rentrer sur le territoire américain c'est une chose, en sortir c'en est une autre. Donc bon.
Oh
bah.
Non, c'est plus simple d'en sortir que d'en rentrer. Ouais.
Ça dépend en quel état.
Non mais t'as raison d'en parler parce que dans l'actualité il y a eu Hamza la douane, là c'est Hamza à la douane. Voilà, il nous intéresse bien évidemment, donc on aura l'occasion bien sûr de revenir là-dessus. C'est une intro cataclysmique, mais c'était l'histoire.
Tout comme cette Coupe du Monde.
Ouais, c'est ça. C'est histoire de lancer les hostilités. Les gars, on l'a dit, Grand Prix de Grande-Bretagne, on avait un format sprint dans ce week-end, le 9e week-end de cette saison 2026. On regarde les résultats, et bien tous ensemble avec une petite surprise. Qui l'eût cru, la 9e victoire en carrière de Monsieur Charles Leclerc, la 250e dans l'histoire de Ferrari. Il devance celui qui a gagné au loto, on va le dire, béni des dieux, monsieur George Russell qui prend la 2e place.
Il n'était pas maudit des dieux, lui?
Il était maudit des dieux, là apparemment il a retrouvé un petit peu de chance au jeu. On essaiera de comprendre comment il a pu terminer 2e de ce Grand Prix. Lewis Hamilton à la 3e place pour son Grand Prix à domicile, tout comme Lando Norris 4e et 1ère McLaren. La 1ère Red Bull, ce n'est pas Max Verstappen mais c'est un Français, Isaac Hadjar, et on l'aime beaucoup. De Racing Bull au 6e et 7e place, Lawson devant Lindblad. Bortoleto qui accroche la 8e place avec cette Audi. Et puis Alpine qui prend 3 points. 2 points pour Colapinto, la 9e place. Et le petit point de la 10e place pour Monsieur Pierre Gasly. A partir de ce résultat, les amis, quels sont les 4 enseignements de ce Grand Prix de Grande-Bretagne? On les découvre aussi ensemble. On va parler d'Antonelli, cette petite fusée en mousse. J'ai essayé.
Vraiment en
roulis. Elle est bien.
Avec ce ton, je sais.
Elle est mieux que certaines.
en tout cas.
T'as raison. Leclerc, le coup de pied au bip. On ne peut pas dire le mot, bien évidemment, mais vous avez compris. À l'abricot, tout à fait, à la pêche, bien évidemment. Red Bull Verstappen, le torchon brûle. Il y a eu des tensions tout au long de ce week-end, on y reviendra. Et puis 2026, est-ce que Silverstone ne pourrait pas être le juge de paix, justement, de cette nouvelle réglementation? Il y a beaucoup de négatifs, mais il y a aussi du positif à retenir. On tirera le bilan, justement, de ce test britannique du côté de Silverstone. Les amis, le pouce levé comme d'habitude pour donner de la force au Paddock Pass. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment à RMC Sport et à vous abonner aussi à Paddock RMC, les réseaux de notre nouvelle maison, de notre nouvelle émission. Et nous, on attaque tout de suite, les gars, sur ce premier enseignement, justement, la fusée en mousse de Andrea Kimi Antonelli. Mercedes, trop de problèmes de fiabilité. On a mis un point d'interrogation, on aurait pu mettre un point d'exclamation. Andrea Kimi Antonelli qui a été écrasante domination depuis samedi, depuis bien sûr la course sprint où il a pris le meilleur sur Lewis Hamilton. Le départ manqué qui a changé beaucoup de choses, notamment le dimanche, lui qui s'est lancé en pole position. Ça l'a obligé à se décaler de manière stratégique, bien évidemment. Il a rallongé son premier relais magique quand même de 36 tours passés sur les médiums. Il souhaitait avoir plus de performance, de capacité pneumatique pour la fin du deuxième relais. Russell lui avait encore un rythme bien inférieur à son coéquipier. Il a dû jouer sur l'effet de course pour remonter dans la hiérarchie et puis jusqu'au moment de ce 42e tour où Andrea Kimi Antonelli a abîmé sa suspension sur un vibreur au passage après Cops. Derrière, ça a été la dégringolade pour Andrea Kimi Antonelli qui est passé par les stands, qui a été pénalisé puisqu'il n'arrivait plus à prendre le moindre virage, et la safety car qui a fini de l'enterrer. Il termine 16e de cette course. On a fait un petit calcul avec Brice dans cette nuit qui nous sépare de ce débrief. 68 points perdus à cause de la fiabilité si on prend l'abandon de Russell du côté du Canada, l'abandon d'Antonelli à Barcelone et donc sa mésaventure d'hier. Une série noire alors qu'il était en train d'écraser le championnat hier à Silverstone et qu'il aurait pu mettre son coéquipier à quasiment 50 points. Ça change tout. Petite déclaration d'Andrea Kimi Antonelli à l'arrivée, c'était sur Sky Italia, le diffuseur italien comme son nom l'indique. Il dit: pour être honnête, on a eu une série incroyable de 5 victoires de suite et les choses allaient un peu trop en mon sens. On a eu 2 abandons en 3 courses et c'est difficile à avaler car à Barcelone j'étais deuxième et ici j'allais jouer la victoire. Je vous montre une petite photo très rapidement et je vais vous poser une question. Vous allez voir dans la foulée, on a le onboard de Leclerc, attaque totale en qualification justement dans ce virage juste après à la sortie de Cops. On a Antonelli, vous voyez qu'il va un petit peu plus loin sur cette bordure et sur ce vibreur, toujours dans l'exercice de la qualification en Q3. Et on a Kimi Antonelli au moment justement où sa suspension l'a lâché dans ce 42e tour. On voit qu'il était à l'attaque maximum, les gars. Est-ce seulement un manque de chance ou encore un problème de fiabilité chez Mercedes ou tout simplement la faute d'Andrea Kimi Antonelli?
Oh, c'est une bonne question ça, dis donc.
Il fallait rentrer
direct dans le truc. Non, je trouve que encore une fois, le titre veut tout dire sur le fait que Mercedes est une voiture en mousse. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les Formule 1 sont tout simplement hyper fragiles. Ça change pas d'habitude, mais quand je vois les LMDH et LMH aux 24 heures du Mans qui font 24 heures de course pleine balle, là je prends un vibreur, oh la pauvre petite écope de frein, oh là là, elle a cédé sous le poids, sous la vibration, etc. Bon, voilà. Après, ceci dit, ça touche particulièrement Mercedes cette année. Là, on parle du châssis, mais si on va sur tout ce qui est moteur, etc. Enfin, je suis désolé, mais les moteurs Mercedes qu'on nous a vendus en début d'année en mode c'est le meilleur bloc. Alors oui, sur l'homogénéité de la performance, on est d'accord. Sur la fiabilité, excusez-moi, à part Audi et Honda qui sont un peu compliqués, Mercedes qui a autant de problèmes de fiabilité avec autant de voitures qu'elle équipe et donc de kilomètres qu'elle parcourt pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, j'aimerais bien comprendre où est le problème. Donc bon, oui, est-ce que c'est de la faute d'Antonelli? Je suis pas certain. À partir du moment où t'es en full attaque et que tu passes sur des vibreurs, si la voiture elle tient pas, c'est pas la faute d'Antonelli. Pour moi, c'est la faute de Mercedes. Donc je vais partir de ce principe-là.
Toi, de quel principe tu parles?
Pour moi, c'est un peu des deux. Déjà, je veux contredire Pierrot parce que, un, j'aime ça. Et de deux, 24 heures du Mans, il y a tout dans le nom. En fait, tu fais une endurance. Donc, le but, c'est quand même de montrer que ta voiture, elle tient 24 heures à haute vitesse. C'est pas le cas de la F1, qui est une course quand même plutôt de sprint et d'attaque, normalement, en général.
Je me permets de répondre. Si tu veux arriver premier, premièrement, faut arriver.
Oui, et Ecclestone n'est plus là.
Ah, ok, Enzo Ferrari.
Non, c'est Ecclestone, non?
Je crois que c'était Enzo, moi.
On l'attribue à beaucoup de gens.
Dis donc les commentaires. Moi, je pense que c'est un peu des deux parce que tu sais que ta Mercedes n'est pas une voiture sur laquelle tu peux te baser pour de l'attaque full, puisque de nombreuses reprises, quand ils ont dû beaucoup attaquer, il y a eu des gros soucis. La Mercedes s'est montrée extrêmement performante en gestion, mais en moment de grande attaque, je trouve que celle de Russell, au moment où il s'attaquait à pleine balle au Canada, a lâché. Anthony Lee, quand justement il attaquait Russell à Barcelone, elle a lâché après avoir passé Russell. Donc tu sais quand même que ta Mercedes, de base, elle est pas folle. Enfin, elle est pas folle au niveau de la fiabilité. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ce concept de pas adapter ton pilotage à ta voiture. Aujourd'hui, il y a deux responsabilités. La première, c'est effectivement que Mercedes a des problèmes tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est qu'on se focalise sur les problèmes du bloc propulseur. Mais faut pas oublier les problèmes qu'a eu Russell à Suzuka, qu'a eu Russell à Shanghai. Là, en fait, c'est un problème visiblement de fragilité sur l'avant gauche. Et tout n'est pas lié au moteur. Et en l'occurrence, il y a peut-être sur les 9 courses, 6 courses où dans l'ensemble du week-end, il y a eu un moment donné où la Mercedes a eu un problème. On oublie trop facilement la qualification de Russell où il part dans le bac à gravier, oui, parce qu'il a ce problème visiblement de traction au moment du frein où il bloque les roues. Il le dit lui-même, tu ne bloques jamais les roues là. Donc déjà, il y a ça. Effectivement, il y a de la faute de Mercedes qui produit une voiture qui ne te garantit pas d'aller à l'arrivée, très clairement. Et de deux, Antonelli, il attaque comme un sourd quand même. Et je trouve qu'il doit quand même s'adapter à cette donnée-là, que la Mercedes à l'attaque pure est un petit peu fragile. Et là où il va, et on l'a vu sur ton graphique, c'est des pyramides des vibreurs. Hein. C'est au-delà de la première salve de vibreurs, on va dire. C'est le deuxième rang. Et là, c'est des pyramides. Et on le sait, je ne sais plus à quel Grand Prix c'était, mais ça avait été banni. Au Qatar, ça avait été banni parce que ça lacérait absolument tout et ça provoquait des vibrations terribles.
Ils avaient les mêmes en Autriche, il me semble, mais maintenant, je crois qu'ils les ont retirés justement. Donc,
Oui, ils les avaient à la sortie du dernier virage, il me semble.
Dans les deux derniers virages, globalement. Ouais.
Ouais. Donc, en fait, quand tu sais ça et que tu fais un tour de reconnaissance de la piste le jeudi ou le mercredi, peut-être que c'est un endroit où il ne faut pas aller. Donc, je pense que la responsabilité est partagée.
Je vous donne l'avis Toto Wolff, justement, sur la question qui s'est exprimée, justement, à la F1 TV sur le sujet. Mais à culpa du côté de Toto Wolff et de Mercedes, on pense que c'est arrivé au virage 9, car c'est là que c'est apparu. C'est de notre faute. Une voiture ne devrait pas casser. Voilà. Je ne pense pas que la course ait été plus difficile que les manches précédentes, mais avec ce problème, en tout cas, il ne pouvait plus tourner. Les gars, abandon de Russell, on l'a dit, au Canada, il aurait dû faire première place à ce moment-là. Abandon d'Antonelli à Barcelone, on visait une deuxième place. Abandon, enfin pas abandon hier, mais les problèmes d'hier qui l'empêchent de marquer des points, 68 points lâchés. Est-ce que plus globalement, en sortant bien sûr de ce cas bien sûr très précis d'André Hakimi Antonelli, est-ce que plus globalement, la fiabilité ne peut pas être justement l'arbitre de cette saison, ne peut pas être le talent d'Achille de cette écurie Mercedes? C'est l'écurie qui a perdu le plus de points. Je ne parle pas en tant que motoriste, mais en tant qu'écurie depuis le début de cette saison.
Non, mais c'est clair que la fiabilité allait jouer un rôle cette année, en particulier avec ces moteurs hyper complexes que même les équipes ont encore du mal. Et même McLaren, encore une fois, aujourd'hui, en tout cas au Grand Prix de Silverstone, était en mode on ne comprend pas bien le déploiement. Et là, Mercedes a sorti un engine trick qui a été banni, mais finalement, ils ont réussi à trouver un truc pour justement re-rentrer dans leur mode qualif sans être inquiété par la FIA, mais évidemment que la fiabilité allait jouer un rôle. Je ne m'attendais pas à ce que Mercedes, vu comment on nous l'avait vendu et vu comment ils avaient enchaîné le début d'air hybride de 2014 à 2025, je m'attendais à ce que Mercedes soit quand même bien devant, et surtout devant parce que fiabilité, moins peut-être parce que gros écart de performance. Je trouve que c'est un petit peu plus l'inverse, ce qui fait que la fiabilité va jouer un rôle déterminant. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le budget cap et le développement sur les voitures. Ferrari a énormément bossé sur cette première partie de saison. Moi, j'ai peur qu'en deuxième partie de saison, et Toto Wolff le disait, que Ferrari apporte moins d'améliorations, donc stagne peut-être un petit peu plus en termes de performance, sauf s'ils arrivent à extraire un peu plus de leur package. Maintenant, Mercedes va pouvoir peut-être amener un petit peu moins, mais de manière un peu plus régulière comme d'autres équipes. Et peut-être que c'est là que se fera la différence. Mais encore une fois, comme je disais à Brice, si on veut gagner, premièrement, faut arriver.
Toi, t'as été marqué au fer rouge, Brice, par une saison qui était 2005, McLaren, Kimi, Raikkonen, et justement qui avait la meilleure voiture.
T'es désagréable.
Non, mais je rappelle juste aux gens.
Mais
McLaren, cette année-là, avait la meilleure voiture et avait été plombée justement par des problèmes de fiabilité en tout genre. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose que tu crains pour Mercedes?
Bon, il y a plus de grands prix, c'est donc vrai. La fiabilité a un peu moins d'impact.
C'est un peu plus lissé. Ouais.
Mais en même temps, le compte des points, parce qu'au final, on ne s'est jamais vraiment posé la question depuis les années 2010 de la fiabilité. Il y avait encore des problèmes sur les V8, mais beaucoup moins qu'en 2005, 2006, 2007, par exemple. Mais là, un 25-0, ça fait aussi extrêmement mal. Je ne suis pas inquiet particulièrement pour Mercedes, parce que leur voiture, on en dira ce qu'on voudra, on a l'impression que les autres teams reviennent petit à petit. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont des week-ends tellement compliqués pour le fait d'avoir une voiture qui soit fiable, Mercedes, que leur performance s'en ressent et leurs points marqués s'en ressent. Mais les week-ends où ils n'ont pas de problème de fiabilité, ils sont quand même largement devant. Donc, je pense qu'effectivement, la fiabilité est le problème majeur qu'ils doivent régler bien avant même les évolutions de perfo. Ouais, parce que en perfo, j'ai quand même le sentiment qu'ils sont... Enfin, il n'y a pas de souci particulier. Avant la duo de Ferrari à Monza, puisque Mercedes n'a pas prévu de duo, ça c'est quand même lunaire. Enfin,
ça c'est fou, ça. Si tu peux le préciser aux gens qui nous regardent.
Ça veut dire que s'ils ne prévoient pas d'adio, ça veut dire que tout ce qu'ils racontent en début de saison, bon, on sait tous que c'était du bullshit de dire ah non, c'est Ferrari ou Red Bull qui a le meilleur moteur, nanana, nanana. Mais si les mecs ne prévoient pas d'adio, c'est qu'ils sont très sereins sur ce qu'ils ont. Et effectivement, il y a de la fiabilité à aller chercher, comme le disait Brice. Ça c'est hors adio, normalement, la fiabilité, si je ne dis pas de bêtises. Parce que la duo concerne que la performance.
Mais la fiabilité est partout chez Mercedes. Encore une fois, on fait une fixette sur le bloc moteur, mais il y a plein d'éléments qui déconnent un petit peu chez Mercedes. Il va falloir faire gaffe à ça, parce qu'encore une fois, on n'arrête pas de parler de beaucoup d'évolution de la part de Ferrari. Mais Ferrari, à partir du moment où ils ont un moteur performant, ils n'ont plus beaucoup besoin d'évolution. Le châssis est au-dessus, est vraiment au-dessus. Donc, si les autres amènent plein d'évolutions aérodynamiques ou châssis, je ne sais même pas s'ils vont pouvoir matcher Ferrari. Donc, encore une fois, les évolutions amenées par Ferrari maintenant, elles sont faites pour mettre le châssis dans une optique parfaite jusqu'au moment où on aura l'évolution moteur qui mettra Ferrari dans les bonnes dispositions pour aller jouer la gagne de façon régulière. Maintenant, pour revenir à la fiabilité de Mercedes, oui, c'est un problème majeur parce qu'aujourd'hui, avoir 80 points d'avance sur Ferrari en ayant à la régulière une demi-seconde de vitesse pure en plus, que ce soit en qualification et même généralement en course, c'est peu. Aujourd'hui, avoir les 6 premiers du championnat en moins de 100 points, c'est peu quand tu vois la domination de Mercedes. La dernière fois que c'est arrivé, c'est 2022, et 2022, il y avait quand même deux écuries qui se tiraient la bourre. Là, normalement, officiellement dans la performance, il y a pas de bourre à tirer. Ce que je veux dire, c'est que la Mercedes est au-dessus, partout. Et en l'occurrence, là, moi, ça me fait peur pour eux.
Ce que tu disais sur la duo, c'est qu'ils n'avaient pas prévu justement qu'ils pourraient bénéficier d'une aide au développement après le premier constat délivré par la Formula One et la FIA. Ce qui fait qu'en fait, leur première évolution moteur devrait arriver quoi? À 2-3 courses à la fin.
3-4 courses avant la fin, selon les dires de Toto Wolff. Mais c'est quand même. Moi, j'ai trouvé ça fou furieux de dire à Canal+, on n'avait pas prévu d'aduo. Du coup, ça va arriver tard. Parce qu'il y a quand même des enchaînements de GP qui vont arriver en septembre-octobre, là, comme d'habitude. Là. Et si jamais Ferrari commence à optimiser les choses, aujourd'hui, j'ai un doute, en tout cas, je suis plus sans doute, on va dire, que Mercedes gagne le championnat du monde. Potentiellement, Ferrari peut gagner le championnat du monde des constructeurs.
Il y a match là où avant il n'y avait pas match, et je pense que tout le monde, en tout cas moi, c'était ce à quoi je m'attendais. Je pense que tout le monde s'est fait un peu biberonné en mode ça va être Mercedes comme en 2014, et ils vont c'est ciao, les deux vont se battre tous les deux devant, et puis le reste ça viendra chercher les points, etc. Et je suis d'accord avec Brice là-dessus, c'est que maintenant en fait on a une image beaucoup plus nette, en tout cas au bout de 9 Grands Prix, que Ferrari peut être dans le match, mais il y a beaucoup de si, donc c'est pas encore fait.
Il faut que les deux pilotes soient au top.
Il faut que les deux pilotes soient au top, faut que la voiture soit au top, faut qu'il n'y ait pas de problème moteur,
que l'évolution moteur, ça marche.
Exactement.
Ça, c'est le truc principal.
Oui, mais c'est le moins dur normalement. D'apporter des chevaux sur un moteur thermique, c'est quand même
C'est tout l'aspect électrique.
Alors, apporter des chevaux sur un moteur thermique, oui. Casser le moteur thermique, ça peut arriver aussi. Hein, quand t'apportes de la performance, faut faire quand même relativement gaffe.
Il n'y a plus de débitmètre, c'est bon.
Il n'y a plus de débitmètre. Est-ce qu'il y a encore les bougies de 2019 là? Parce que ça a coûté un titre à Sébastien Vettel, hein, je tiens à préciser quand même. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, en fait, il y a beaucoup de si, mais il y a plus match que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison, ou en tout cas ce que reflètent effectivement les 5 victoires d'affilée de Kimi Antonelli. On s'est dit, terminé. Et en fait, pas tant.
En fait, il n'y a pas match sur la perfo, mais il y a match sur les stats.
Il y a le match sur le stat, ouais, complètement.
Mais justement, parlons un petit peu des stats, les gars, et revenons sur le cas Andrea Kimi-Antonelli, en tout cas sur ce week-end. Les écarts, ils se sont. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est passé du coq à l'âne dans cette course. Je le disais tout à l'heure, on a eu l'impression qu'Antonelli allait assommer George Russell, eh bien, dans cette course, après avoir gagné la sprint, après avoir fait la pole position, et lui qui était virtuellement peut-être en train de l'emporter, en tout cas dans une situation, un ballottage favorable. À l'arrivée de cette course, avec ce problème au 42e tour, c'est 25 points d'écart avec son coéquipier, 32 points d'avance sur Lewis Hamilton. Est-ce que ce momentum peut laisser justement des séquelles chez l'Italien qu'on a eu quand même quasiment en larmes à l'arrivée au parc fermé, justement à la fin de cette course, qui n'a pas l'expérience, on va dire, des autres pilotes que je viens de citer? Est-ce que ça peut laisser des traces sur les prochains Grands Prix?
Moi, j'ai le sentiment que non, dans le sens où tant que le rythme par rapport à son coéquipier est là, j'ai pas l'impression qu'il sera détruit mentalement. La Mercedes, c'est pas de sa faute. L'année dernière, c'est lui qui a eu un problème à partir d'Imola jusqu'à...
Loin.
Après Zandvoort, parce que
loin,
si tu souviens, Zandvoort, il tape Leclerc.
Ah si, je m'en souviens très bien.
Je m'en souviens bien aussi. Mais j'ai pas l'impression que tant qu'il sera devant Russell, ça soit un problème. Pour lui, il sait que c'est l'équipe qui est fautive. Il sait aussi qu'à chaque fois qu'il a eu son abandon, il était deux et deux, et la deuxième fois, il aurait pu jouer la première place.
C'est l'apprentissage de champion du monde. C'est l'apprentissage de champion du monde. Et moi, il y a un truc qui me fait très plaisir chez Antonelli, c'est que j'ai vu un gamin qui s'est dit bon bah never give up. La caisse, ouais, ok, j'ai un problème, machin, je rentre. Ouais, bon, bah, on va retire the car. Non, vas-y, je vais essayer d'aller au bout.
C'est ça.
Est-ce que mon rythme va, machin, face à Colapinto? Bon, vas-y, faut que je construise un gap de 5 secondes. Vas-y, c'est chiant. Les limites de piste, là, faudra me. Enfin, bon, on va en parler après, mais il va falloir m'expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais bon, visiblement, on a des commissaires sportifs.
Toi, ce que tu dis, bon, mais... parce qu'on peut en parler maintenant, toi, ce que tu dis, c'est que tu comprends pas la sanction contre Andrea Kimi-Antonelli qui a coupé certains virages parce qu'il avait un problème technique.
Bah, il a un problème technique, il perdait du temps, il n'a pas gagné un avantage, mais effectivement, à partir du moment où tu fais un track limit, les mecs bêtes et méchants, on compte terminer, bonsoir, et on se pose pas de questions. Bon, ok, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est dommage, je trouve, pour le sport, mais fair enough. Derrière, ce que je retiens quand même, c'est que Antonelli veut pas lâcher, il va jusqu'au bout. Il en paye le prix, il a les larmes aux yeux parce que bah, quand tu as un problème mécanique qui t'empêche de revenir et de jouer la victoire et qu'ensuite on te met une pénalité parce que tu as eu un problème mécanique, bon, ça fait certes un peu beaucoup, c'est normal qu'il ait les larmes et un petit peu la rage au ventre en sortant de la voiture, mais derrière, j'ai vu un champion du monde, j'ai vu quelqu'un qui s'est sorti les gonds et qui s'est dit « ouais, mais en fait, un point, ça peut faire la diff en fin de saison, donc je vais y aller, et c'est obligatoire ». Là où t'en as d'autres qui auraient fait « ouais, bon, bah, ouais, perdu pour perdu, je peux rien faire ».
Ça me rappelle Hamilton Imola 21.
Oui, quand il recule dans le bac, là.
Il recule dans. Elle est plantée, la voiture. Mmh. Et...
Putain, enfin, il s'en sort.
Il s'en sort et il termine.
Il termine dans les points. Hein.
Non, mais il termine dans les points. Je me souviens plus où il termine. Je me demande s'il termine pas deux, même. Mais
c'était. Non, je crois
en fait, je confonds deux grands prix où il se passe
la même chose. C'est deux ou neuf. 2020,
c'est deux ou neuf.
Ça, ouais.
Complètement.
Je me souviens plus.
Non, mais tu sais que même. Tu fais des parallèles avec le temps. Moi, limite, j'avais envie de faire un parallèle avec Silverstone 2021, où en fait, ça avait complètement inversé le momentum. Alors que le samedi, on pensait que Verstappen allait écraser Lewis Hamilton. Et ce crash derrière avait complètement changé la comptabilité, l'approche et la dynamique de Lewis Hamilton.
Et 2020, où il termine sur trois roues. Pendant un tour complet et que Verstappen lui fond dessus et il va quand même, enfin je sais pas, il y a une, je suis totalement d'accord avec Pierrot, il nous a montré quelque chose hier de très solide et le fait qu'il soit en larmes derrière n'empêche pas le
ça
fait
empêche
qu'à
pas,
Spa,
c'est sur le moment, soit, c'est l'émotion du moment, c'est tout.
Après, encore une fois, enfin chez Mercedes, il va falloir se poser des questions. On va arriver à demander la pleine puissance d'un moteur qui aujourd'hui n'est pas fiable dans une piste comme Spa-Francorchamps. Ne venez pas à mettre des doutes dans la tête de vos pilotes.
Moi, j'adore.
Je préfère qu'ils aient moins de performance, mais qu'ils se rassurent aussi, tu vois.
Ce que tu veux dire, c'est que eux ne se sentent pas, en tout cas peut-être aujourd'hui, d'attaquer sur cette auto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils attaquent sur cette voiture,
Il y a un double problème parce que Toto Wolff dit à la radio d'Antonelli car il shit, et puis après il dit à George Russell non mais en fait la voiture en ligne droite elle est très bien.
Mais en fait je comprends que un Russell entende des problèmes imaginaires. Parce oui, que en fait, si ta voiture, elle a, elle a des problèmes tout le temps.
Bon, il prend 5 dixièmes en moyenne hein, quand même sur le. Sur la,
mais je,
sur la piste,
hein. Je pense que lui, par exemple, Russell, son manque de rythme vient également du fait du manque de confiance en sa voiture, du fait que quand il a un problème, il se rend même plus compte que le problème est réglé, parce que les problèmes vont et viennent, qu'on les comprend pas forcément chez Mercedes. Encore une fois, c'est une épine qui est plus grosse que ce qu'il n'y paraît dans le pied de Mercedes, parce que la saison est longue et que même si ils sont dans un fauteuil en haut du championnat, 88 points d'avance. Quand tu es censé mettre entre 3 et 5 dixièmes à l'écurie poursuivante, c'est peu.
Et de faire P1, avec... P2.
Mais oui, c'est peu.
En plus.
Donc, la transition est toute trouvée. On va ouvrir le cas de George Russell là tout de suite pour justement essayer de comprendre le problème. Vous avez commencé, les gars, à y répondre. Juste pour terminer sur Antonelli, la petite théorie du complot du moment, c'est Kim Kardashian, les gars. Depuis qu'elle a volé, non mais c'est vrai,
la serviette.
Depuis qu'elle
rend la serviette,
depuis qu'elle a volé la serviette, c'est deux DNF et des
8e au championnat, Antonelli depuis la serviette.
Non mais c'est vrai, c'est fou, tu vois. Donc voilà, il faut que Kim fasse quelque chose en tout cas pour.
Par contre, Hamilton depuis ses podiums sur podium.
Exactement. c'est pour ça que on pourrait commencer à y croire à cette histoire. C'est une blague, bien évidemment, les amis. Vous chez vous qui prenez les choses,
je prends ça très très au sérieux. Moi.
Ouvrons le dossier de George Russell. Vous l'avez dit, les gars, le miraculé englué derrière les Ferrari en déficit clair de rythme, hein, tu parlais de 4 à 5 dixièmes de déficit vis-à-vis de son coéquipier, un souci de crevaison qui devait lui coûter cher, et puis le miracle de fin de course, le souci d'Antonelli, l'abandon de Verstappen, la safety car et l'entrée au stand de Lewis Hamilton. Il y a une scène qui nous a tous marqué, bien évidemment, c'est l'échange radio entre George Russell et Toto Wolff à l'arrivée de cette course. Ça commence avec le premier message de George Russell qui dit « Félicitations d'être allé chercher ce résultat aujourd'hui, nous devons absolument résoudre notre problème de vitesse de pointe en ligne droite. À part ça, ce week-end est vraiment très décevant. » Réponse de Toto Wolff. George, je pense qu'il n'y avait pas de problème avec les lignes droites en course aujourd'hui.
Mais the car is shit, hein, selon Toto Wolff chez Antonelli. Donc,
Toto Wolff qui s'est justifié.
Pas d'adieu au prévu.
Pas d'adieu prévu non plus.
Ouais. Toto Wolff qui s'est justifié sur Canal, justement, sur cet échange radio. Il dit c'est un petit rappel à l'ordre. Il a eu des problèmes en ligne droite tout le week-end, mais pas en course. Pour le pilote, c'est important dans sa tête de se concentrer, d'essayer d'améliorer ce qui peut lui-même améliorer, mais je suis content qu'il ait pu faire une deuxième place aujourd'hui avec une voiture avec laquelle il n'est pas à l'aise en ce moment.
Ah ouf, heureusement il est content.
C'est quoi le problème de George Russell, les gars? Est-ce qu'on arrive à le comprendre? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème technique?
Problème de management, Toto Wolff, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? C'est le vilain petit canard de l'équipe.
De l'équipe
c'est canard, en vrai, tu vois, pourtant je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement George Russell. J'ai beaucoup de mal à l'apprécier. Il fait tout pour qu'on ait du mal à l'apprécier, moi je trouve. Mais là, à un moment donné, enfin, le gars fait P2, l'autre il resserre la vis parce qu'il fait P2, qu'il arrive à aller chercher. Alors oui, le rythme 5 dixièmes il prend par Antonelli, donc il y a effectivement quelque chose qui va pas. Peut-être dans son pilotage, peut-être sur la voiture. Enfin, il y a un mix de tout. Mais à un moment donné, c'est pas comme ça que, en tout cas chez Mercedes, on a donné des ailes à Lewis Hamilton pour aller de l'avant, à Valtteri Bottas, à Kimi Antonelli et compagnie. Je vois plutôt l'espèce de culture du blâme qu'on a beaucoup repoussé chez Mercedes en disant non, mais en fait c'est un problème de process. Bah là, je vois plutôt un blâme. Alors oui, ça vient aussi de George Russell, hein, quelque part, qui dit ouais, très décevant, top speed, machin, truc, ce que tu veux. Mais il y a pas un truc autour de George Russell qui se construit de manière très positive. Il y a pas une émulation, il y a pas un momentum. Bien au contraire, quand il fait P2, t'as l'impression que c'est pas du tout le momentum. Et regarde, il a gagné la semaine dernière en Autriche. Momentum zéro là. Donc je sais pas si ça vient de lui, je sais pas si ça vient de l'équipe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'équipe il fait pas pour grand chose pour le mettre dans une situation
confortable. On l'avait dit aussi la semaine dernière, hein, il gagne en Autriche et 60-70% du succès en Autriche est construit par la pole position chopée à un moment où Antonelli abandonne son tour parce qu'il y a un drapeau jaune. Donc la victoire de la semaine dernière elle est circonstancielle, elle aurait dû lui remettre de la confiance pour ce week-end, parce que quand tu vois comment il pilote et quand tu vois les déficits qu'il a, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est un manque de confiance. C'est la même c'est la même chose que Leclerc sur la Ferrari comparé à Hamilton. C'est ce côté, je ne peux pas donner 100% parce que il y a des choses que je ne sens pas dans la voiture, et pour sentir les choses dans la voiture t'as quand même besoin d'un entourage dans ton garage qui te rassure et qui te permet d'aller jouer ta vie sur une piste, qui est pour moi le cas chez Antonelli.
Mais c'est complètement le cas,
les risques que prend Antonelli, la manière l'agressivité dans le pilotage d'Antonelli. Alors peut-être que c'est ce qu'il faut à cette Mercedes pour fonctionner dans la bonne fenêtre, mais en attendant George Russell il ne pilote pas comme il pilote en Australie,
c'est sûr.
Quand tu le vois faire, c'est beaucoup trop coulé par rapport à ce que fait Antonelli. Et visiblement, Antonelli, pour les pneus, ça fonctionne de rouler comme ça. Alors pour le moteur peut-être pas, ça dépend.
pour les copes de frein non plus.
mais en tout cas, ça en performance, ça fonctionne de piloter comme pilote Antonelli. Et peut-être qu'à un moment donné, et là je te fais la passe D, il va falloir faire comme Charles Leclerc a fait, à savoir comprendre comment le deuxième pilote pilote pour s'adapter à ça et derrière revenir. Parce que si la voiture fonctionne, dans une plage, il faut aller chercher cette plage.
Exactement. Et ben ça nous emmène justement à ce deuxième enseignement. Ferrari et notamment Charles Leclerc qui est allé chercher sa première victoire dans cette saison. On l'a dit, 2 ans de disette quasiment, 37 grands prix d'attente pour le pilote monégasque. Est-il sur le bon chemin après ce game changer entre samedi et dimanche? Première victoire depuis Austin en 2024 pour Charles Leclerc. La fin donc d'une certaine série noire qui concerne aussi cette saison 2026 où il semblait en difficulté ses derniers grands prix, sa sortie à Monaco, son abandon aussi du côté de Barcelone, son manque de rythme qui avait été criant en Autriche, et on l'a dit, un changement d'approche entre la phase de sprint et la phase grand prix, changement de réglage aussi au moment où le parc fermé a été réouvert pour effectuer des modifications sur cette voiture. Et à l'arrivée, c'est une première ligne le samedi en qualification, un excellent départ qui lui permet de prendre la tête le dimanche, un meilleur rythme que Lewis Hamilton, et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas observé ceci. Il a bénéficié bien évidemment des problèmes d'Andrea Kimi Antonelli, mais on peut se poser la question, aurait-il pu gagner à la régulière si Antonelli avait pu faire et finir cette course? Et la question globale, une fois qu'on aura expliqué qu'est-ce qui a changé chez Charles Leclerc, c'est peut-il y avoir un avant et un après Silverstone 2026? Est-ce que la carrière justement de Charles Leclerc peut être de facto relancer. Les gars, deux déclarations pour justement vous poser la question. C'est presque un décryptage qu'on va faire, mais en bavardage. Charles Leclerc à Sky Italia, c'est hier, on est après la course. Voilà ce qu'il explique. C'est pas hier après la course, c'est après la qualification. Il nous dit, nous avons effectué pas mal de changements par rapport aux qualifications sprint et au sprint, et je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Quels étaient les changements? Je ne vais pas vous le dire. Honnêtement, ce n'est pas aussi important que ce que les gens imaginent. Récemment, j'avais deux possibilités. Soit je changeais complètement mon style de pilotage et j'essayais simplement de reproduire ce que fait Lewis parce que cela fonctionne clairement, soit je continuais à suivre ma propre direction en essayant d'adapter davantage la voiture à mon pilotage. Autre réaction pour essayer de comprendre ce qui a pu changer sur cette auto, c'est Lewis Hamilton hier en conférence de presse qui, à mon humble avis, a essayé de faire le malin et nous a expliqué à peu près tout l'inverse. Il dit, Charles a suivi mes recommandations pour ses réglages de ce week-end. D'ailleurs, il a pu se rendre compte qu'il allait à l'encontre de ce qu'indiquait le simulateur. Bref, il dit un peu l'inverse de ce qu'expliquait Charles Leclerc. Les gars, pour que les gens comprennent bien cette mue de Charles Leclerc, la construction de cette victoire, qu'est-ce qu'a changé Charles Leclerc entre le format sprint et le Grand Prix?
Faut poser la question à Laurent Dupin.
Tu n'as pas eu la réponse.
Tu n'as pas eu la réponse.
Non, apparemment, c'est un équilibre de la voiture qui lui donnerait moins d'avant et plus d'arrière. Sauf que Charles Leclerc déteste le sous-virage.
Oui, mais avec de la rotation quand même conservée. Donc,
on n'a pas tout changé. Et il le dit lui-même, il dit c'est pas si important que ça. Mais le fait est que c'est un effet papillon de remettre un peu d'arrière parce que tu as une meilleure traction sur Silverstone, ça t'aide quand même à ressortir des endroits très chauds qui te permettent de te défendre à la fin. Ça te permet de moins user tes pneus et on a vu la Ferrari en grande difficulté à ce niveau-là en Autriche. Et surtout Leclerc plus en difficulté qu'Hamilton à ce niveau-là de quelques tours. On sait Hamilton préfère un arrière plus assis. Les choix qu'a fait Lewis Hamilton sont allés dans le bon sens et les choix qu'a fait Lewis Hamilton ont ignoré le simulateur. Il n'est plus allé au simulateur. Donc j'ai quand même tendance à croire que s'il ne le dit pas et s'il déclare ça, c'est juste pour éviter l'aveu de faiblesse de dire en fait j'ai écouté Lewis alors que je devrais être en mesure de m'écouter moi-même, et du coup de piloter à contre-nature pour lui. Savoir, je vais perdre un peu d'avant, ma voiture ne sera plus faite pour moi dans un confort pas possible, mais force est de constater que cette voiture fonctionne mieux comme ça.
Grosso modo, en fait, le truc, c'est que Charles a mis moins d'agressivité dans son pilotage sur la voiture, en tout cas entre qualif sprint et qualif grand prix. En qualif sprint, il roulait avec un rapport de moins dans certains virages, avec un régime moteur plus haut, contrairement à Hamilton qui roulait avec un régime plus bas et un rapport rapport de plus. Et pareil, en fait, on se rend compte que Charles avait effectivement moins de sensations dans la voiture. Il liftait beaucoup plus, notamment dans Cops, par exemple, là où pour Hamilton, ça passait quasiment flat. Et effectivement, pendant la qualif, ouais, c'est bon, tous les endroits où il avait du mal, ça allait beaucoup mieux. Donc il y a de ça, et je suis d'accord avec Brice. En fait, le truc, c'est que maintenant, quand t'as une voiture qui te donne de la confiance, tu vas chercher des extra dixièmes en plus. Déjà de base, t'es un poil plus rapide avec ton réglage, mais en plus de ça, tu construis une confiance qui fait que tu vas naturellement plus vite. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de reproduire ce pilotage-là qui est pas forcément de sa nature à lui, et donc qui va lui demander de réfléchir peut-être un petit peu plus. Et je pense à un cas extrême comme Daniel Ricciardo chez McLaren, où ça réfléchissait mais beaucoup trop.
C'est la gamberge là. Ouais.
Et alors là, c'est fin de carrière. Ou est-ce que vraiment, ça va être un pilote qui, ça y est, enfin se remet un peu en question sur son pilotage, sur pas mal de choses, parce qu'il a été poussé par un de ses coéquipiers, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, très peu en tout cas, et effectivement de voir si sur la suite ça va
arriver. Il a été poussé dans la perf, il n'a pas été poussé dans le statut.
Dans la remise en question, dans la politique, tu veux dire, dans
le statut. Aujourd'hui, quand tu vois la manière dont Lewis Hamilton s'est approprié cette écurie et a fédéré autour de lui, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, parce que Charles Leclerc est l'enfant béni et l'enfant roi depuis 2019, au point même où Sébastien Vettel s'en est allé et que derrière on lui a mis un coéquipier pas gênant pour un sou, pas en termes de performance, mais en termes de politique, il n'a pas été gênant, Carlos Sainz. Et pourtant, il a montré quelques désaveux à Charles Leclerc.
C'est vrai.
Mais ça n'a pas eu l'impact que ça a eu là. Là, il y a quand même un impact. Et après, on écoute la Gazzetta ou on ne l'écoute pas. Mais la Gazzetta, ce qu'elle sort quand même, c'est que l'équipe est en train de donner sa vie pour Lewis Hamilton.
C'est la première
fois depuis 2019 que Charles Leclerc ne passe pas après, mais n'est plus, on va dire, la mission de son équipe. Et en l'occurrence, je trouve ça très bien qu'on le sorte de son trône pour que derrière, il aille voir ce qui se passe en bas et les problèmes qu'il y a. Et en l'occurrence, il a pris un tournant qu'il aurait certainement pas pris les années d'avant, mais qui lui permet d'arrêter de dire on n'a pas de perfo, mais de dire j'avais pas la perfo dans ce setup là.
En fait, le problème de Charles Leclerc, excuse-moi Manu, mais
vas-y.
Le problème de Charles Leclerc, et on le répète depuis plusieurs années, c'est de pas oser. Il y a toujours un truc où un Vettel ou un Sainz ose dire non à Ferrari. Je pense à Silverstone 2022, quand l'autre lui demande « Ouais, ralentis pour que Leclerc puisse quand même… » Stop inventing, guys. Hein. Charles Leclerc a jamais été capable de faire ça. Est-ce que c'est le début, justement, Silverstone 26, est-ce que c'est le début d'un Charles Leclerc qui, ok, en fait, si Lewis Hamilton arrive, dit « Non, mais en fait, moi, vous me prenez des Carbon Industries et vos Brembo, vous les foutez à la poubelle et vous vous démerdez, parce que sinon, je vais pas réussir à performer », et qu'il y arrive, peut-être que Charles Leclerc, ça va lui dire… En fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'il faut que, quand je sens un truc et que c'est du feeling et ce genre de choses, et il l'a très bien dit en interview, il l'a dit plusieurs fois, c'était du sentiment et c'était pas juste de la data, c'était pas mal de choses. Et peut-être que maintenant, enfin, il va s'écouter et aller au bout du bout, quoi.
Lewis Hamilton est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée dans la carrière de Charles Leclerc.
Et c'était, je pense, que voulait Frédéric Vasseur à l'époque où il lui avait expliqué l'arrivée de Lewis Hamilton, où il avait dit on a besoin d'un choc culturel et psychologique et de faire venir quelqu'un qui a gagné pour justement leader ce projet. On pensait beaucoup à Ferrari à l'époque. Peut-être que ça peut aussi rejaillir sur Charles Leclerc.
Parce qu'on n'arrêtait pas. Enfin, tout le monde n'arrête pas de nous vendre Ferrari quand même comme une culture. T'arrives dedans, une institution, etc. Mais je suis d'accord que l'institution reste au-dessus de tout, bla bla bla. Néanmoins, quand l'institution, la culture, c'est la culture de la loose, parce que on va pas se mentir.
Ça t'empêche pas de vendre des bagnoles, visiblement.
La culture héritée des 16 titres, c'est pas celle des mecs qui sont à l'intérieur de l'écurie maintenant.
Complètement.
Ah non.
On est bien d'accord.
Et puis même l'hégémonie Schumacher a été construite justement sur un choc.
Oui, ce sont des héritages et une armoire à trophées que les mecs ne regardent pas en passant quand ils vont derrière dans l'usine. Enfin, faut bien se dire que c'est plus les mêmes gars. Donc ramener quelqu'un qui a vécu ça lui et qui a gagné ce titre-là permet quand même des changements qui ont l'air bénéfiques. Maintenant, avec Ferrari, c'est la dixième fois depuis qu'on a créé cette émission qu'on dit ça a l'air d'aller mieux, ça a l'air d'aller mieux. Il va falloir quand même que ça tienne plus de 5 courses.
Back. Il va falloir se méfier. Une petite déclaration de Charles Leclerc. Eliane qui est en régie, c'est la 0-12. On va sauter d'une décla pour revenir après à la décla. Voilà. Merci à Eliane d'ailleurs de nous accompagner et préparer cette émission de manière exceptionnelle comme d'habitude. Charles Leclerc qui dit j'ai toujours été, c'était au micro de Canal hier à l'arrivée, il dit j'ai toujours été extrêmement honnête avec ce que je ressens, avec ce que je fais, mais d'un côté ça m'expose un petit peu. Il fallait le prouver en piste, ça s'est bien passé en qualif, mais j'avais encore le doute pour la course. Et je suis content parce qu'on a tellement travaillé de l'extérieur, ça ne se voit pas forcément. Je suis vraiment content qu'on soit de nouveau sur la plus haute marche du podium. Moi quand je lis cette déclaration les gars, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que, alors déjà, par rapport à ce que tu disais, ce coup de pied au derrière, est-ce que c'est la première fois que Charles Leclerc se le donne, tu penses, en carrière? Et est-ce que du coup, à partir de cet événement de ce Silverstone 2026, est-ce qu'on pourrait pas avoir un nouveau Charles Leclerc? Un Charles Leclerc 2.0, un petit peu différent, mais encore un peu plus performant.
Je vais t'arrêter, la dernière fois qu'on a eu un pilote 2.0, c'était Valtteri Bottas.
On a eu la version 4.0.
Qu'est-ce qui devient d'ailleurs?
Écoute, il est en fond de grille avec Cadillac, ça se passe bien.
Il est sur la grille, je sais pas. Je vois sur Insta, mais je vois pas beaucoup sur les.
Ah non,
sur
il
les
met un tour à Alonso. Respect.
Ça c'est fou. Bataille entre Aston Martin avec des décalages, des voitures qui perdent l'arrière. C'était magnifique.
C'était trophée Andros.
Ah, je me suis régalé. Exactement.
On a vu Antoine Bedieu au trophée Andros.
Non mais tout ça pour dire que je sais pas si c'est en fait. C'est difficile à dire parce que on a déjà eu un Charles Leclerc qui s'est remis en question ou qui disait qu'il se remettait en question. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un Charles Leclerc faire vraiment au lieu de dire ce qu'il va peut-être faire ou dire ce qu'il va faire. Et là, effectivement, je pense que il s'est aussi rendu compte qu'à l'heure des réseaux sociaux et d'émissions comme les nôtres, qui peuvent l'enfoncer une semaine et puis le remettre sur un piédestal la semaine d'après, même si on essaye quand même de justifier certaines actions. En fait, il y a quand même une sensation de Charles Leclerc, ça y est, il s'est concentré sur son boulot. En tout cas, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je trouve. Et effectivement, le fait de dire à Laurent Dupin, bah non, je vais pas vous le dire, je vais bosser sur mon truc, j'arrive en interview, bam, 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 je dis ce qu'il faut, je me casse. C'est ce que fait très bien Lewis Hamilton. Ah, Hamilton, il arrive, il a les éléments de langage, boum, 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 terminé, bonsoir. Et après, il scrolle pas sur Instagram, il scrolle pas sur Twitter, il fait sa life. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui manque à Charles Leclerc. Il a été extrêmement exposé médiatiquement parlant, de manière différente par rapport à Lewis Hamilton, j'entends, hein, mais toute sa vie personnelle est hyper médiatisée.
Ah, le petit prince.
Femme, machin, etc. Bah, oui, mais du coup, c'est ça aussi qui l'empêche peut-être de temps en temps de se remettre vraiment dedans, là où Lewis Hamilton, en fait, sa life, c'est de faire de la Formule 1. Évidemment, il se fait un peu plaisir à côté, à gauche, à droite, mais il a un équilibre de vie qui est hyper strict. Là où peut-être Charles Leclerc, c'est un petit peu plus compliqué.
La life d'Hamilton est basée sur l'inconfort et le challenge de l'underdog. La vie de Leclerc est totalement différente à ce niveau-là, mais bon, on va pas rentrer dans du gala.
Partons sur Kim Kardashian.
Moi tu vois, je repense à l'Autriche 2019. Avec Verstappen,
oui,
qui reste Max Verstappen, qui n'avait pas changé, qui suit une ligne directrice,
toujours pas changé,
qui suit une ligne directrice très lisible. et derrière Charles Leclerc, ouais, si tu peux montrer les crocs, je vais montrer les crocs.
Il les a loués les crocs.
Ouais. Parce que ça a duré deux Grands Prix, tu vois.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est
parce que en roue contre roue, mec, Charles Leclerc,
il est capable de faire des choses exceptionnelles. Si en fait à chaque fois il faut qu'il mange une tarte de l'espace pour
avancer sur un point, oui, bah ouais.
Le truc, c'est que par exemple, 24, il fait une saison extraordinaire. 25, la voiture est pas ouf, mais il fait quand même une très bonne saison. Et là, je trouve qu'en fait, tu vois, il attend d'avoir la monoplace parfaite pour gagner. Et en fait, c'est pas comme ça que tu gagnes. Non. Déjà, un, tu l'as construit, la monoplace parfaite, avec ton écurie, et tous les grands l'ont fait. Et de deux, tu vas tout optimiser comme un chien tout le temps. En l'occurrence, la Ferrari n'est pas une voiture pour gagner en ce début de saison, et Lewis Hamilton a fait des choix radicaux qui l'ont amené à gagner à Barcelone. Suivre cet exemple-là ne peut être que bénéfique. Pour autant, il ne faut pas retomber dans un truc où il arrête de le faire. Je pense qu'il faut être un chien de façon constante pour aller, à la fin, gratter ce que tu dois gratter. Mais le pilotage pur n'est pas suffisant pour aller gratter un titre. Le fait d'avoir une monoplace parfaite, ça se construit. Et en l'occurrence, je pense que ça lui manquait un petit peu. Mais il va falloir voir sur le long terme si cet électrochoc qui a eu lieu là a des effets bénéfiques qu'il peut maintenir.
Est-ce que ça a duré 2-3 courses?
On sera
est-ce
là
que ça durera
ou
plus
une ou
on sera
une
là
carrière.
Pour en parler les gars, on prendra le temps bien évidemment de ne pas être trop dans la culture de l'instant et voir justement ce que vont nous apporter les événements à venir.
Dixit, les mecs qui ont dit Verstappen en Coupe du Monde là.
Hein. C'est quoi ça?
Bah la Coupe du Monde des pilotes.
Ah oh non,
oui, Verstappen
pas
devant
de
Lewis Hamilton.
Ça c'est tu déterres des dossiers là.
Ah ouais,
c'est pas bien
complètement.
Allez voir cette émission, elle est de qualité.
Mettez-les à Bercy là.
Mettez-les à Bercy.
Race of Champions.
Ah ouais, c'est génial.
En Rotax Max.
Voilà, ils ont eu ce qu'il fallait avec les Lego et Ben GLM, c'était parfait. Hein.
Ouais, mais avec un peu plus de vitesse, un peu plus d'enjeu.
Moi, je milite pour ça quand même. Un retour de la Race of Champions
complètement. En
duel
en karting là. Ce
serait exceptionnel.
On va l'organiser.
Petit... Ah oui, oui, avec le soutien d'RMC, bien évidemment. Les patrons nous écoutent.
Chicos, va falloir sortir des sous.
Charles Leclerc, justement, revenons à la course, les gars, et aux circonstances de course. Il y a une chose qu'on s'est posée aussi, une question qu'on s'est posée autour de Charles Leclerc, c'est à la régulière, pouvait-il véritablement l'emporter? Déclaration toujours de Charles Leclerc, c'est au micro de Canal Plus à l'arrivée. On a eu de la réussite aujourd'hui, mais il en faut des fois. On aurait eu du mal à garder Kimi derrière après son problème. J'ai dit à la radio que je n'allais pas prendre de risque, pas prendre les vibreurs. Je voulais faire gaffe et j'ai eu la nouvelle du safety car. Moi j'avais la sensation les gars avant cette avarie du 42e tour que vu le rythme tonitruant de cette Mercedes, vu le capital pneumatique, on rappelle qu'il avait des pneus durs 10 tours plus jeunes que ceux de Charles Leclerc, que Andrea Kimi Antonelli c'était inévitable, allait fondre justement sur le monégasque. Est-ce que votre vision est un petit peu différente? C'est-à-dire si Antonelli n'a pas eu ce problème, il aurait dû gagner cette course?
Si on pense qu'à la statistique de retour, oui, mais en attendant, des pneus, ça se dégrade aussi. Charles Leclerc était sur un rythme de gestion, Antonelli sur un rythme d'attaque. On a vu que Léard, quand même, avait une très grosse performance sur les 5 premiers tours, une petite 10. Baisse sur les... Oui, 10, allez. Sur les... 7 une baisse derrière, un peu de revis sur la fin, mais comme les médiums, d'ailleurs. Et derrière, il faut toujours dépasser. Mmh. Il y a toujours cet argument-là de dépassement. C'est la logique des choses qui soit passée s'il n'avait pas eu ce problème. C'est pas non plus certain. Et dire que la victoire appartenait à Antonelli, il faut encore passer Charles Leclerc derrière. Mmh. Donc, je dirais 70%. Allez.
Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec Brice. Non, en fait, le problème à Silverstone, et moi je prends la bataille entre Hamilton et Antonelli en sprint, il a mis 8 tours à le dépasser, mine de rien, donc à isopneu en plus. Mmh. Se
du
décaler.
Coup, moins, du coup, ça aurait pris moins de temps avec les
ça aurait pris normalement moins de temps, effectivement, avec le offset qu'ils ont créé, justement, en allongeant de fou sur les médiums, qui finalement se dégradaient pas tant que ça, parce que quand tu regardes les médiums de Antonelli usé face au hard 9 de Charles Leclerc,
c'était 5 dixièmes de
il prenait que 5 dixièmes, ce qui n'est pas énorme en soi, hein, surtout après une trentaine de tours, je trouve ça pas énorme. Donc, effectivement, il revenait comme une fusée sur Charles Leclerc. Est-ce qu'il avait suffisamment de pneus, ou en tout cas de différence de performance avec les pneus pour aller chercher Leclerc sur la première attaque? Parce que je pense que ça se jouait, à mon avis, beaucoup sur la première attaque. Et si la première attaque passait pas et que Charles Leclerc défendait bien, il y avait match. Je pense quand même que Antonelli aurait fini par passer. Mais...
Une attaque coûtait très cher sur ce circuit ce week-end,
ouais.
Non
ouais, c'était deux tours à peu près avant de. Tu faisais une attaque, deux tours de recharge.
De recharge, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait personne derrière, hein, parce que Russell, bon. Max et je sais plus qui.
Russell, Max et Lewis Hamilton, non?
Oui, Hamilton, pardon. Tu sentais que quand il y allait, fallait pas te rater, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est dû bien évidemment à la configuration très exigeante en termes de batterie de ce tracé de Silverstone. Juste un mot, les gars, pour refermer cette large page Ferrari sur Lewis Hamilton. Un dimanche un peu trop brouillon. L'homme qui avait réalisé la pole position en shootout sprint. La belle bataille avec Antonelli, justement, dans la course sprint. La pénalité pour avoir bougé sur son emplacement. Ça, c'est le dimanche, bien sûr, au départ du Grand Prix. On l'a dit tout à l'heure, il avait moins de rythme que Leclerc sur la phase du dimanche. C'est belles passes d'armes avec George Russell et avec Max Verstappen. On rappelle le roi Lewis qui a été piégé en fin de course justement sous safety car. Ça c'est un peu la longue litanie de sa carrière, je pense.
Sans Michael Masi
cette fois-ci. Voilà, et finalement Lewis Hamilton qui n'a pas été pénalisé malgré une infraction justement au drapeau jaune. Trop d'erreurs pour Lewis ce dimanche pour pouvoir exister justement dans cette course et dans ce scénario. Un peu le résumé de ce week-end, malgré pas assez de
rythme, pas assez de rythme, mais surtout je pense qu'effectivement à partir du moment où on lui annonce la pénalité sur son problème, enfin sur son faux départ, bon mais il s'effondre un peu en rythme au bout de c'est quoi
7-8 tours. Mais comment
Antonelli
sprint,
ouais non mais c'est ouais. ça Antonelli passe et d'un coup Hamilton il prend 2-3 dixièmes facile par par Charles Leclerc si pas plus. Donc bon je réglage,
c'est un effet papillon c'est aussi, c'est-à-dire choses. Que ouais. je pense qu'il est pas si loin que ça en rythme de Charles Leclerc, mais dès que la peine tombe, déjà en plus il a, je pense, sauvé Charles Leclerc,
oui,
il a
perdu
quand même un écart en début de course.
Tout à fait.
Derrière, la pénalité le fait ressortir juste derrière Russell, et ça, j'ai trouvé ça quand même dommage de pas attendre un petit peu qu'un écart se creuse. Mais bon, visiblement les pneus commençaient à fatiguer. Mais s'il ressort devant Russell, potentiellement il y a un différent match qui se crée en fin de course. Encore une fois, c'est un effet papillon qui, au vu de tous ces petits grains de sable dans la machine, on fait que Lewis Hamilton a fait une course un peu moins bonne, mais un peu moins bonne si ça veut dire podium. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois, il n'y avait toujours pas de podium chez Ferrari. Donc, mollo, c'est une course moins bonne. Ça reste un double podium pour la Scuderia et ça peut faire peur pour la suite.
Complètement. 32 points et bien d'écart avec le leader du championnat du monde. Très brièvement, en 10 secondes, vous expliquez pourquoi il n'a pas été pénalisé, il a bien enfreint et il n'a pas respecté en tout cas le drapeau jaune qui a été déployé sur l'abandon d'une Audi, celle de Nico Hülkenberg. Il était à la lutte avec Max Verstappen à ce moment-là, en effet. Et pourquoi il n'a pas été sanctionné? Tout simplement parce qu'il a eu l'information de manière très tardive au moment où il entre dans ce secteur. Le drapeau jaune n'est pas sorti et la seule signalétique qu'il aurait pu voir, c'est celle justement qui était positionnée au niveau de la voiture de Nico Hülkenberg au dernier moment. Et donc la direction de course a fait preuve de mensuétude. Et puis bien évidemment les gars, c'est la course automobile, on ne reprochera pas à Ferrari de l'avoir arrêté au stand et de ne pas avoir imaginé que cette course ne repartirait jamais. Ça s'appelle un coup de poker. Mercedes a gagné sur ce coup de poker, Ferrari a perdu sur ce coup là mais bien évidemment il y a aucun débat
quoi,
à tirer là-dessus.
Tours
hein. Ouais, il restait 4 tours.
Non, mais pour moi, ça pouvait.
De toute façon, Russell aurait fait opposite, je pense.
Oui, mais complètement. Si Hamilton s'arrête pas, Russell s'arrête. Donc, c'est.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a une question.
Comme à Abu Dhabi en 2021.
Tu joues à la roulette, tu gagnes, tu perds.
C'est ça.
Exactement. Et un jour, il gagnera ce jeu-là, notre ami Lewis Hamilton.
Pas gagné, mais.
Troisième enseignement, les gars, parlons de Red Bull, parlons de Max Verstappen, parlons de ce torchon qui semble brûler, la colère au max du côté de l'écurie autrichienne, du rififi en interne. Équilibre précaire et manque de vitesse de pointe, c'était les symptômes en tout cas d'une Red Bull en difficulté. Un désaccord profond entre Max et son écurie aussi après la qualification, notamment au niveau des réglages à adopter sur cette voiture. Red Bull n'a pas voulu céder à sa star, à son pilote numéro 1. J'ai lu le message de Brice en même temps.
Pardon,
ça m'a perdu, excuse-moi. Et donc on a eu quand même le droit dimanche malgré tout, une bataille pour le podium plutôt miraculeuse. On rappelle qu'il a dû abandonner justement sur une sortie provoquée par l'aileron Macarena qui l'a encore envoyé au tapis comme ça avait été le cas en qualification du côté de l'Autriche. Les excuses de Red Bull, est-ce qu'elles suffisent puisque Laurent Mekies s'est confondu en excuse à l'arrivée de cette course? Le clan Verstappen qui par l'intermédiaire de journalistes amis a fait comprendre et a dit justement qu'il ne se sentait plus écouté. Et puis il y a cette clause de la mi-saison qui pourrait être bientôt levée, cette clause qui indique que si Red Bull n'est pas justement présente à la deuxième place des constructeur à la mi-saison, il y a l'opportunité pour Max Verstappen, s'il venait à la levée, de pouvoir se retrouver libre. Les gars, il y a deux choses importantes autour de ce week-end qui sautent aux yeux. Il y a un, on l'a dit, le rythme compliqué de cette Red Bull, mais surtout en coulisses, les désaccords très profonds entre Max Verstappen et son équipe. Ça, c'est ce qui nous inquiète le plus en vrai sur les deux thèmes.
Le plus gros problème, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que Laurent Mekies est arrivé en mi-année dernière en disant il faut redonner du pouvoir aux pilotes et arrêter de regarder un peu trop les écrans, les simulations, etc. Pour que finalement, en fait, ils n'écoutent pas leur pilote à Silverstone qui dit et qui l'a prouvé déjà plusieurs fois par le passé que quand il écoutait les ingénieurs en disant vous vous trompez, mais vas-y, on va voir ce que ça donne sur la piste, et effectivement, ça se passe pas bien. Qu'une fois que lui prend les choses en main et qu'il dit non mais on va faire ça, ça se passe pas trop mal, et que là effectivement on lui refuse de mettre un nouveau moteur, on lui refuse certains réglages, donc effectivement c'est là, il se sent plus écouté par son équipe. Il y a un vrai problème, on l'a senti à l'arrivée dans la zone d'interview. il est saoulé. Il est plus saoulé par la réglementation 2026 qui, bon, voilà, c'est mieux qu'avant. Mais par contre, là, il commence à être saoulé par sa propre écurie. Alors là, je trouve que c'est cataclysmique pour le coup. Et ça, c'est un vrai problème qui risque de se propager. Donc, le petit Max, moi, j'ai un petit peu peur pour la suite, surtout pour Red Bull. Ceci perd Max Verstappen, je vois pas comment le château de cartes ne peut pas s'écrouler.
La déclaration à laquelle tu fais écho, on va la donner hein, justement. Eh bien, à ceux qui nous suivent, je te donne la parole tout de suite, Brice. Max Verstappen a Viaplay, le diffuseur néerlandais. Il dit : je n'étais pas satisfait de l'équilibre tout au long du week-end. Je manquais de vitesse de pointe de mon côté, c'est pareil en course aujourd'hui, et si ça n'avait été que dépendant de moi, je serais parti des stands pour justement appliquer la plage de réglage qu'il souhaitait imposer. Pour le moment, je veux juste rentrer à la maison et ne pas penser à la Formule 1. Il y a eu aussi bien les excuses de Laurent Méquies, c'était sur Canal+, Laurent Méquies qui a dit: nous avons eu un problème avec l'aileron arrière de la voiture de Max, c'est donc de notre faute, nous présentons nos excuses à Max, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons un problème de ce genre qui l'a fait sortir de piste, ce n'est jamais agréable d'envoyer notre pilote dans le bac à gravier, le plus important c'est qu'il aille bien. Qu'est-ce qu'il en ressort pour toi, Brice, justement, de ce week-end de Red Bull?
Bon, déjà, deux fois qu'il y a un bac à gravier de 50 mètres de long, il y a un jour où ce sera un mur. Donc, il va falloir arrêter de compter sur Max pour faire des merveilles et aussi penser à améliorer la monoplace dans des conditions où les deux pilotes peuvent la conduire de façon sereine et safe. Je vous rappelle que les Red Bull étaient les premiers à critiquer Mercedes pour donner une voiture à ses pilotes qui rebondissaient beaucoup trop et qui les mettaient en danger en 2022. Donc, Red Bull doit s'appliquer les mêmes préceptes. Deuxième chose, tu dis il y a une clause s'ils ne sont pas deuxième. C'est même pas qu'ils sont pas donnés, mais c'est qu'ils sont quatrième.
Ouais, complètement.
Donc c'est
loin.
Non, mais c'est impossible. En fait, la clause, il peut la lever d'ores et déjà, puisqu'il a même lui-même 75 points de retard sur George Russell.
Moi, j'ai l'impression que Max Verstappen, comme beaucoup de champions post-réglementation où ils ont beaucoup gagné, se retrouve dans une situation où la réglementation ne lui plaît pas, qu'il y a des choses qui changent dans l'ordre établi dans l'écurie et que les statuts tombe un petit peu, entre guillemets. C'est arrivé à Lewis Hamilton en 2022. La différence, c'est que je pense que Max Verstappen ne va pas avoir besoin de 3 ans pour prendre une décision. On sait par l'intermédiaire d'Insider que Max Verstappen se serait offert à Mercedes.
Qu'il aurait refusé.
Pour 2027, et Toto Wolff aurait refusé. Encore une fois, c'est quand même la plus grande girouette de l'histoire, l'Autrichien. Pour moi, ils sont en train de le perdre.
Complètement.
Red Bull. Et je pense que Laurent Méquies, sans Helmut Marko et sans tous les diabolos satanas qui ont fait cette écurie pendant 15 ans, n'ont pas les moyens de le retenir.
Il y a quelqu'un qui disait ça dans mon chat, c'est: est-ce que Verstappen va renouveler Red Bull? Pas l'inverse.
Parce que
je trouve que c'est très très vrai. Hein.
C'est quand même le dernier maillon d'une chaîne qui peut faire revenir Red Bull à un statut d'écurie mid. Max Verstappen, alors t'as évidemment Isaac Hadjar qui est là, mais Isaac Hadjar, enfin rappelez-vous l'année dernière Mercedes, on les considère comme une écurie outsider, mais plus top parce qu'au final le line-up est devenu Russell Antonelli qui est un rookie, Antonelli Russell qui a fait ses preuves mais qui n'a pas encore l'étoffe d'un grand champion du monde à ce moment-là, et une voiture qui ça fait 4 ans qu'on cherche les solutions. J'ai un peu l'impression que Red Bull suit la même trajectoire à une réglementation de l'écart.
N'oublions pas que les départs les importants départs qu'il y a eu au sein de Red Bull, on a dit aussi que c'était l'entourage de Verstappen qui était à l'origine de tout ça, pour redonner, bien sûr, remettre Max Verstappen au cœur du projet. Déclaration intéressante d'un insider, c'est Eric Van Aren. Vous savez, c'est un petit peu l'oreille à laquelle Jos Verstappen et Max
sûr.
Pour donner les coulisses, c'est le journaliste du Télégraphe aux Pays-Bas qui disait hier à l'arrivée de cette course, il dit: depuis des semaines, il y a eu une friction latente entre l'entourage de Verstappen et les hauts dirigeants de Red Bull, car Max a refusé jusqu'à présent de déclarer qu'il continuera à piloter pour l'équipe l'année prochaine. Verstappen se sent ignoré par son équipe, y compris ses ingénieurs. Au Canada, il a regretté qu'on ne l'ait pas écouté concernant le choix des réglages, pendant que le néerlandais insistait pour remplacer le moteur et effectuer des ajustements dans la configuration. La direction de l'équipe est restée inflexible. Pierre Vacher, le directeur technique, ne partage plus toutes les infos, notamment avec l'ingénieur de Max, à savoir Gianpiero Lambiazzi, car celui-ci pourrait finir par filtrer des informations confidentielles à McLaren. Ce n'est pas une situation vraiment saine.
Cercle vicieux. La confiance est perdue entre les deux. Il portera une combinaison l'année prochaine.
Alors justement, c'était là-dessus que je voulais terminer ce troisième axe. Vous pensez qu'il y a un réel risque pour Red Bull de perdre Max Verstappen, et on va même aller plus loin, pour la Formule 1, perdre Max Verstappen en 2027?
Non, il roulera. Je pense qu'il roulera.
Ah ouais? Je sais pas. J'en ai aucune
écoute,
idée.
Si ils auraient pas pris des informations chez Mercedes et chez McLaren,
s'il n'avait pas envie de rester.
Ça rapporte autre chose, rouler en Formule 1 et de rouler aux 24 000 heures, c'est pas la même chose.
Il a proposé à Mercedes de baisser son salaire.
Ouais. Oui, mais bon.
Bon, après, c'est la dynamique. Ah,
après, il peut se reproposer dans un mois, Toto Wolff dira avec grand plaisir, on sait pas.
Bah, pour ça, il faut que George Russell continue de pas performer. Donc,
bon. Ce qui est possible.
Non, mais tout ça pour dire, oui, enfin, plus le temps passe, je pense qu'il faudra voir à Zandvoort et au retour de la trêve estivale comment ça se passe. Mais pour moi, Max Verstappen, pour le moment, il a plus de chances de porter une autre combinaison l'année prochaine, peut-être pas celle d'une combinaison en Formule 1, mais peut-être ailleurs, que de rouler pour Red Bull. Maintenant, est-ce que Red Bull a les capacités de faire un chèque tellement énorme qu'il est obligé de dire oui? J'en sais rien, mais en fait, le problème, c'est que Max Verstappen est s'écoute trop lui-même. Enfin, c'est un problème. Il s'écoute trop lui-même. Donc, en fait, si ça le fait chier la Formule 1 en 2026 et 2027, si ça le fait chier de pas se faire écouter par une équipe, bah il partira. Il s'en fout. Et puis, s'il fait pas de Formule 1, mais il y a toutes les manches de GT World, il y a les 24 heures du Mans en WEC, il y a un nombre d'équipes incalculables qui sont prêts à l'accueillir et même à débourser un chèque. Donc, en fait, à un moment donné, il aura que l'embarras du choix et que là, en fait, c'est peut-être même déjà pas mal qu'il soit pas tout de suite parti. Donc, voilà, là pour l'instant, l'aileron arrière et le flow qui se réattache pas dessus. Dernier avertissement.
Il est libre, Max, comme disait bien évidemment une fameuse,
colère, voilà,
une fameuse chanson. Je ne veux pas réagir, les gars, mais on félicite Isaac Hadjar hein, qui a réalisé un cinquième top 6 consécutif, 5 top 6 consécutifs depuis Montréal. Preuve que cette Red Bull va quand même un petit peu mieux et que ça se passe bien, en tout cas pour notre pilote français. Bravo à lui. Dernier enseignement, les gars, c'est Silverstone, c'est le juge de paix 2026. On va aller très très vite sur cet aspect-là. Ce week-end, en fait, le débat autour de la réglementation 2026, pardon, a refait surface d'une certaine manière, a pu même nous prendre un petit peu à contre-pied. Moi, le premier hein, des vendredis, j'étais assez critique et assez circonspect. Il y a eu déjà les craintes des pilotes avant Silverstone parce que justement, ce circuit ne permettait pas de recharger à hauteur du déploiement qui aurait pu aider justement peut-être un petit peu plus de spectacle. On sait que ça a beaucoup écrit dans le groupe WhatsApp, notamment des pilotes. On a vu les premières critiques aussi après les essais libre 1 et notamment dans ce passage mythique de Beckett's Maggot's Chapel où on a eu des voitures qui étaient
Maggot's
quasiment
Beckett,
oui Maggot's Beckett's Chapel, oui t'as raison, on avait des voitures quelque peu au ralenti, on était plus sur le morceau de bravoure et de courage qu'on a pu connaître justement par le passé. Il y a eu les critiques aussi après le dépassement un poil trop artificiel en sprint de Antonelli sur Lewis Hamilton. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu du positif, notamment des qualifications et un Grand Prix peut-être un peu sublimé par cette réglementation qui a donné des armes aussi de défense à ceux qui étaient chassés. Et mine de rien, eh bien 2026, et ça je vais aller chercher tout de suite Brice là-dessus parce qu'on a eu l'occasion d'en parler et je trouve que ton avis était particulièrement intéressant à partager. Pour toi, 2026 fait d'une certaine manière aussi la part belle au facteur pilote finalement, d'une manière différente, mais bien évidemment qu'il y a encore l'application du pilote à travers le déploiement et le rechargement.
Au processeur pilote, pas à l'instinct pilote. Ça,
on débattra
pas. À des Carlos Sainz, quoi.
Ouais, voilà. De la froideur. Je pense que Senna aurait été moins bon que Prost, par exemple, sur ces voitures-là. Non, mais en fait, je pense que l'ambivalence de 2026 a été parfaitement résumée par Sprint Grand Prix. Sprint, il s'est passé ce qu'on a vu en Australie, à savoir des déploiements qui n'étaient pas gérés de la même manière et du coup des choses abominables. C'est du spectacle, super, ça a ressemblé à la parade des pilotes de dimanche. Au-delà de ça, bon, c'est pas ma F1 quoi. Enfin, je me suis régalé par l'incertitude, mais j'étais en mode pff, oui, ok, d'accord. mais dimanche, quand les déploiements se sont resserrés, bizarrement, ça te donne du coup un aspect de je l'utilise là parce que là il pourra pas, même s'il l'utilise là il va vider sa batterie mais il pourra pas me prendre là parce que je vais défendre comme ça. Et quand je vois par exemple le boulot qu'a fait Hamilton en qualification, à savoir je me sers différemment de ma batterie parce que mon châssis compense ce que les Mercedes ne compenseront qu'avec la batterie dans le secteur 1, pour me servir de la batterie pour moi compenser ce que j'ai en déficit moteur dans le 2 et dans le 3, je leur mets une poussée qui fait que je prends de la pole. Ça, pour moi, c'est un coup de maître de cerveau, pas un coup de maître de pilotage, on est bien d'accord, même si le pilotage doit s'accorder par le fait de gérer la batterie au maximum et du coup piloter pour optimiser cette gestion de batterie. Donc il y a cette ambivalence là, mais si ça se passe comme dimanche, je suis désolé, mais j'ai vu un excellent Grand Prix de Silverstone. Et je suis pas du tout fan de cette réglementation, et on en a parlé en début de saison, et c'est caca et tout ce que vous voulez. En attendant, ce qu'on a vu en sprint, c'est abominable à mon sens. Ce qu'on a vu en Grand Prix, si ça prend cette direction là, bah je signe.
Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois qu'on va arriver sur des morceaux de d'histoire et d'ADN de la Formule 1, on risque de ressortir à chaque fois ce débat 2026. Ça avait été le cas mine de rien après le Japon, au passage au 130R, à l'arrivée sur cette chicane. Là, c'est à nouveau le cas avec Beckett Magots Chapelle.
En même temps, maintenant, on les passe tous de la même manière.
C'est vrai.
C'est une station de recharge, paraît-il.
Et ce sera, c'est ça un petit peu qu'on reproche. Parce que pour bien expliquer aux gens, c'est que, en fait, le virage, c'est là où le pilote fait la différence par sa prise d'initiative, par le risque, justement, qu'il va prendre. Et là, désormais, ils ne prennent plus ni initiative, ni risque, parce que ça leur sert de recharger pour déployer dans la ligne droite. Où avant, la ligne droite, c'était la voiture, justement, qui faisait la différence.
Désolé, Pierrot, mais je trouve, je prends juste un truc, là. C'est un peu hypocrite cet argument-là, parce que c'est pas comme si Magots, Beckett et Chapelle étaient devenus un enchaînement où les mecs devaient avoir un morceau de bravoure génialissime.
Non, mais t'as raison. Oui, t'as raison.
Enfin, je veux dire, tu me dis ça dans les années 90.
Comme le 130R d'ailleurs.
Magots, Beckett et Chapelle.
Cop, oui, d'accord, mais ça passait à fond.
Ouais.
Il y a pas tu pouvais relâcher un petit peu, mais.
Non, mais d'accord, ça passe à fond, mais faut avoir le compas dans l'œil, mon patin.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus ces virages, c'est comme le Rédillon. C'est pas les années 90.
Tu vois. Oui, alors, c'est parce qu'il n'y a plus de bac à gravier derrière, je comprends.
Mais tu te rapproches pas. On va dire que tu t'éloignes encore plus. Tu t'éloignes encore plus. C'est ça qui est un peu gênant.
Ce que j'ai vu en course, c'est quand même que les mecs étaient déventés. Et que rester là où il fallait rester pour derrière aller passer à.
Stowe,
pardon. J'allais dire AB, mais AB, c'est plus loin. Pour aller passer à Stowe, il fallait gérer ta voiture dans Magots, Beckett, Chapelle pour pas te faire complètement déventer par la voiture de devant. Il y avait quand même une notion de pilotage qui rentrait et qu'on avait moins vu les années d'avant parce qu'elle se suivait pas d'aussi proche. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans quand même.
Où est-ce que tu te situes entre la boisson et la nourriture?
Je suis très partagé. Je suis un peu comme vous. Effectivement, le sprint, c'est rigolo, ça se tape dessus. Ça permet à Hamilton et Antonelli de s'échapper pendant que les autres, ils sont en train de s'étriper comme jamais dans des endroits très différents du circuit. Donc je suis en mode, ça veut dire que personne n'a le même déploiement. Donc c'est intéressant. Ceci étant dit, j'ai toujours pas les infos de savoir c'est quoi le déploiement alors qu'on était censé. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a plus du tout le petit boost overtake. Ah, la batterie, machin, tout ça, ça a disparu. Peut-être à notre profit.
C'est les écuries qu'on demandait que ça sorte, je pense.
Les
commentateurs longs, par contre, sur leur leaderboard, ouais.
Bon, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'en discutais avec des gens du WEC de se dire, notamment sur la BOP, mais de se dire qu'en fait, une bonne réglementation, c'est celle dont on parle pas. Et effectivement, quand tu parles plus trop de la batterie, plus trop de la recharge, machin, bon, là, on était obligé un petit peu plus d'en parler. Mais j'étais là, c'est un peu dommage, mais ok, vas-y, c'est comme les pneus, visuellement, tu peux voir s'il y a un peu de greening ou pas, mais ça c'est pour l'œil avisé. Pour le déploiement, c'est un petit peu pareil. Tu te rends compte quand il y en a un qui est complètement arrêté, qui a plus de batterie, et que l'autre il lui met une turbo dinguerie sur la ligne droite des hangars. Donc bon, j'étais là, il y a un peu à boire à manger. J'ai passé un bon Grand Prix de Silverstone. C'était pas ce que j'appréciais le plus, parce qu'effectivement au final, tu vois, le dépassement d'Antonelli sur Hamilton, c'est juste un dépassement DRS au final. C'est juste un gars qui s'est bien positionné, il
reste
sur
plus
bouton,
quoi.
Il lui met une distance, il le dépasse avant même de faire les freins. Bon voilà, en fait, on a maquillé un DRS sous une autre forme. Maintenant, j'y suis un peu moins hermétique à cette réglementation, mais j'en suis toujours pas fan. Donc voilà, mais effectivement, les autres circuits nous ont permis de voir une Formule 1 plus naturelle, plus normale. Et c'est juste qu'effectivement, les gros morceaux d'histoire, comme on a Silverstone, on a Spa qui arrive. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont à combien ils vont arriver au comble.
Super clipping en haut du Rédillon.
Ça va être l'enfer. Je pense que Pouhon ou Alonso, c'était quoi, 2015, quand il est avec la Honda, là, avec la McLaren, il passe à fond, le moteur comprend pas, il coupe. Parce qu'il se dit, problème en fait. Ça, on va plus le revivre, tu vois. Donc. En fait, c'est ça le problème, c'est que ces F1 sont adaptés à des circuits d'Hermann Tilke, avec des virages à 90, des portions un peu rapides, une grande ligne droite et beaucoup d'endroits où on peut recharger. Mais les circuits naturels de Suzuka, Spa, Silverstone, c'est pas fait pour.
Le titre de la prochaine vidéo, poumon sans poumon. Okay.
Je vous le dis. Ce sera ça. Juste pour terminer, deux, trois réactions justement sur le sujet. On a un nouveau hater de cette réglementation 2026. Il s'appelle Ensar Alfredsen. Regardez son petit tweet. Il dit F1, réveille-toi. C'était pendant la course justement pendant la sprint.
J'espère qu'il l'a pas dit en allemand.
Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai.
Non, mais parce que c'est connoté. C'était un slogan catastrophique, hein, si jamais. Hein.
Donc, ah bon, c'était connoté. Oui, oui. Ah bah, exactement. On ne le répétera pas ici. Fernando Alonso aussi qui a disserté à l'arrivée. Qui n'avait, je pense qu'il a dit en anglais HH.
Bon,
c'est ça aussi, ses initiales. Attends, je suis désolé.
Non, on parle d'Hamza Hamza. Oh, bah.
Nous l'avions déjà dit au début d'année, dit Fernando Alonso, ces règlements allaient amener ce type de course où l'aspect pilotage consistant à attaquer fort dans les virages ou à tenter un dépassement risqué à l'extérieur ou encore à plonger au dernier moment avec un freinage tardif. Tout cela a plus ou moins disparu. Il faut simplement avoir plus d'énergie électrique que la voiture de devant, appuyer sur le bouton et dépasser. Voilà la nouvelle Formule 1. On peut aimer ou non, certains y voient de la stratégie ou apprécie, mais cela rend probablement le talent naturel de pilotage un peu moins important. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous plaindre, dit quand même Fernando Alonso. Et puis dernière déclare où
je dis 4 secondes, tu te plains pas comme ça. C'est pas la batterie le problème.
Il y a plus de grave dans la vie. Et puis la dernière déclare, c'est Max Verstappen qui disait justement après la course à Spa et à Monza, ce sera encore la même chose et c'est dommage parce que je pense que Spa est un très beau circuit, mais pas avec ces voitures. La hype sera très différente cette année. On aura juste hâte de rentrer à la maison. Décidément. Il a beaucoup répété ça, Max Verstappen.
Ça, peut-être qu'il est papa.
Ça donne peut-être une indication.
Il a changé d'appartement.
Ouais. C'est là-haut, là.
À la sortie du tunnel. Voilà, les amis, en tout cas, pour ce débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'était du côté de Silverstone. Prochain rendez-vous dans 15 jours.
Deux semaines. Bien,
pour Spa-Francorchamps. Juste avant, petit point comptable, comme d'habitude. Vous dire que ça s'est resserré. On vous l'avait expliqué. Avec le classement, bien sûr, des pilotes. 25 points d'avance pour, l'ami Andrea Kimi Antonelli sur George Russell. 32 points d'avance désormais sur Lewis Hamilton. Et Charles Leclerc qui revient dans cette fenêtre. 71 points de retard pour, l'ami Charles Leclerc. Et puis vous allez le voir aussi, l'avantage net pour Mercedes au classement des constructeurs, mais comme l'a dit Brice tout à l'heure, pour une écurie qui était censée écraser cette saison, mine de rien, cet avantage n'est pas si important que cela. Voilà, c'est à peu près
78 points.
78 points en effet, et Audi d'ailleurs qui avec les points de Bortoleto remonte à hauteur de Williams. On n'a pas parlé de Williams les gars, mais je pense
même pro.
Que quand on fera le débrief de Spa-Francorchamps, je vous conseille, il faudra baisser un petit peu le volume parce que le quatrième enseignement,
il y a des comptes à rendre là. Hein.
Voilà,
il y a des comptes à rendre, moi je vous le dis.
Voilà, exactement. Ce sera lundi 20 juillet. Vous notez bien sur les agendas. Et si vous avez un doute, vous abonnez, les amis, à Paddock RMC. Vous aurez toute l'actualité de la Formule 1, toute l'actualité de votre émission préférée, le talk numéro 1 en francophonie. Il n'y a pas de débat, en tout cas en termes de qualité
organique.
Et d'audience. Voilà, organique. C'est toujours important de préciser, contrairement à certains tricheurs qui ont préféré de passer, bien sûr, par le paid. Passez une bonne journée, les amis. Prenez soin de vous, surtout. Et on attend vos avis en commentaire. Merci, Pierrot. Merci, Brice. Définitivement brillant, nos amis chroniqueurs ici présents sur ce plateau. Et merci Eliane pour la présentation. Ciao, ciao, ciao. Salut, salut les amis, ciao.